Ce chant est un chant qui, pour moi, ça fait toujours, on va dire, j'ai peut-être une âme d'enfant, hein, ou comme si vous le voulez, mais j'ai toujours aimé les chants d'enfants. Et même en France, hein, en grandissant, en faisant comme les enfants ici, dans les cultes pour enfants, les camps, les classes, ce chant était un chant que je me rappelle qu'on chantait souvent en français. Et il est possible, en tout cas dans le monde anglophone, en tout cas, que ce chant est peut-être l'un des chants les plus connus, pour ne pas dire le plus aimé des chants d'enfants. Personne ne va dire, ah non, j'ai jamais entendu ce chant, je ne le connais pas du tout. Et pour un peu l'historique, hein, de ce chant, c'est Anna Warner qui est née dans les années 1800, 1827 en fait. Elle est née dans une famille chrétienne. Son père, Henry, était un avocat de très grande réputation dans la ville de New York. Et suite à des événements, une série d'événements qu'on n'a pas le temps de voir ce matin, bah, son père va perdre son emploi, tous les biens qu'il avait amassés qui étaient considérables, et y compris sa femme qui va être décédée suite à une maladie. Donc il choisit de quitter New York, la ville de New York, pour aller vivre près de West Point, toujours dans l'État de New York. Pour aider maintenant à un besoin de rentrée d'argent, Anna et sa sœur, Suzanne, ont commencé à écrire et à vendre des poèmes et également des romans. Ces deux sœurs étaient des chrétiennes dévouées, ayant fait plutôt une profession de foi dans leur jeunesse, hein, pour le Seigneur. Et la sœur Suzanne écrit sous le nom de plume d'Elisabeth Wetherell. Elle a écrit au moins 30 romans, 30 romans, dont plusieurs furent un grand succès. L'un de ces romans avec le plus de succès a été traduit en français, en allemand, en hollandais. Et c'était le deuxième roman le plus vendu à l'époque. Derrière celui, ceux qui ont fait de la littérature anglaise, ils connaîtront cet autre roman parce qu'ils l'étudient toujours à l'école aujourd'hui. C'est Uncle Tom's Cabin. C'était le seul qui était le plus vendu que la sienne. Donc, leurs essais de vendre des romans pour essayer à remplir ce flux d'argent qu'il avait besoin, ben, ça marchait bien. Anna écrit sous le nom de plume, elle, de Amy Lothrop. Elle a écrit au moins 31 romans et en tout, les deux sœurs ont écrit au moins 106 romans et livres pour enfants, dont 18 qu'elles écrivirent ensemble. Aucune des deux sœurs ne se sont jamais mariées. Mais vivant à West Point, il faut savoir que West Point, c'est une université militaire qui est dédiée pour former les officiers de l'armée de terre. Et donc, elle tenait régulièrement des études bibliques pour les cadets de West Point parce que leur oncle, Thomas Warner, était l'aumônier pour l'école. Anna s'est mise à écrire aussi des chants, mais ce chant qu'on vient de chanter ne vient pas d'un de ces chants qu'elle a écrits. Ça vient de un de ces romans qu'elle a écrits. On va y venir. Il est dit que Dwight Eisenhower, futur président des US, était l'un des derniers cadets à être l'un des élèves de la classe de Anna et Suzanne. Anna est morte l'année qu'Eisenhower a reçu son diplôme, a graduated de West Point. Les mots Jésus m'aime ont fait leur première apparence dans l'un des romans d'Anna. Le roman s'appelle Say and Seal. Et dans l'histoire de ce livre, c'est un enseignant d'école du dimanche, Monsieur Lindell, qui essaye de réconforter un garçon, Johnny Fax, qui était en train de mourir. Et donc, quand on reprend les paroles et qu'on voit le dernier strophe, quand il parle de justement, ben oui, même jusqu'à ma mort, il me prendra, je serai avec. On comprend un peu mieux le sens de pourquoi il y a certaines de ces strophes certaines paroles dans ces strophes. Mais c'était ce enseignant d'école du dimanche qui avait ce jeune homme qui était en train de mourir dans ses bras, qui essaie de le réconforter dans le roman, n'est-ce pas? Un compositeur qu'on verra le nom de temps en temps, William Bradbury, grand compositeur à l'époque pour les musiques des cantiques chrétiennes, il a dit que quand il a lu ce roman, il était si touché par ce poème qu'il a voulu le mettre en chanson pour que le plus grand nombre d'enfants possible puissent savoir que justement Jésus les aime, et que c'est facile de le savoir parce que tout simplement la Bible me le dit. et que c'est suffisant pour savoir que c'est vrai. La sœur d'Anna, Suzanne, a vécu encore une trentaine d'années après la mort d'Anna. Et entre-temps, ce chant, Jésus m'aime, est devenu tellement populaire que les deux sœurs ont été enterrées avec les honneurs militaires dans le cimetière de West Point. Et à ce jour, ce sont encore les deux seuls civils qui sont enterrés dans ce cimetière. Et donc, depuis, le chant, il a été traduit à au moins une quinzaine de langues. Et donc, je dis, même si c'est toujours encore aujourd'hui, peut-être parmi les langues anglophones où c'est encore le mieux apprécié, connu et aimé. Regardez avec moi en Éphésiens chapitre 3. On va lire les versets 14 à 21 ensemble si vous voulez. Et voir qu'est-ce que on peut apprendre de cette simple petite vérité. Jésus m'aime, je le sais, parce que la Bible me le dit. Et je l'ai donné le temps de tout le monde trouver. Éphésiens chapitre 3. Verset 14, nous dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. » qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Alors, on a lu ces quelques versets un peu rapidement, mais regardez de nouveau un peu les connexions qu'il fait. Il dit, verset 14, Je fléchis les genoux, autrement dit, je prie pour vous. Je vous ai à cœur, je vous veux du bien, je vais prier. Et ensuite, au verset 16, il va dire plus spécifiquement, qu'est-ce qu'il prie pour eux? Verset 14, il dit, je fléchis les genoux devant le Père, verset 16, afin qu'il vous donne. Bon, il nous dit, mais il nous donne quoi? La richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que vous puissiez. Donc, en sorte que, déjà que Dieu nous donne d'être fortifié pour la raison d'eux, en sorte que on est fortifié par l'Esprit, on est prêt à avoir Christ habité dans nos cœurs par la foi, et ensuite, afin que, parce qu'il dit, verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Je prie pour vous, oui, je veux que vous soyez fortifiés, oui, que vous ayez une compréhension, mais ma prière, ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel, ce n'est pas juste une connaissance. Je prie que vous puissiez comprendre son amour dans toute sa largeur, dans toute sa profondeur, dans toute sa hauteur et longueur. Autrement dit, que vous puissiez comprendre toute l'étendue de l'amour de Christ. Qu'il n'y ait pas la moindre partie de l'amour de Dieu qui ne vous concerne pas et ne vous affecte pas. Et ensuite, il dit au verset 19, il parle toujours de connaître l'amour de Christ, parce qu'il dit en sorte que, pour que le résultat final soit d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On pourrait rester rien que sur cette phrase-là et étudier qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que cela implique toute la matinée. Et on se dirait, mais c'est impossible. Moi, dans ma faiblesse, dans mes limites, d'être rempli de par toute la plénitude de Dieu, c'est pas pour rien qu'il donne le verset suivant tout de suite après, verset 20. Or, autrement, à ce qui nous est impossible à nous, que lui peut faire même tellement plus que ce qu'on pourrait même imaginer. Autrement dit, que rien n'est impossible à Dieu, même au-delà de notre imagination les plus folles. Alors je me dois de vous poser la question. Est-ce que vous connaissez vraiment l'amour de Dieu? On vient de chanter à plusieurs reprises. Oui, Jésus m'aime, Jésus m'aime, je le sais car la Bible me le dit. Mais est-ce que vous connaissez vraiment la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur, de toute la plénitude de l'amour de Dieu? Alors, je n'ai pas demandé si vous avez entendu parler du fait que Dieu vous aime. Je n'ai pas demandé si vous avez entendu parler de l'amour de Christ. Je vous demandais, est-ce que vous connaissez, vous, l'amour de Christ? C'est totalement différent. Jésus m'aime, moi je le sais. Vous l'avez chanté, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le savez? Pour vous. Tout comme l'apôtre Paul priait pour les chrétiens à Éphèse pour qu'ils puissent comprendre et connaître l'amour de Christ, ben, j'aimerais qu'on regarde ces quelques versets pour parler de l'amour de Christ pour nous et l'effet que ça devrait avoir dans notre vie. Jamais est-ce que Dieu nous a révélé des richesses de sa personne, de sa personnalité, de ses attributs ou là de son amour pour que ça ne nous affecte pas, pour que ça ne change pas la façon qu'on vit. Un inconverti ne va pas comprendre et au moins connaître correctement l'amour de Christ. Il va en entendre parler, il aura une compréhension intellectuelle qui va jusqu'à un certain point, et il peut en avoir entendu, il peut en avoir lu, mais il ne peut pas la comprendre de la même manière qu'un chrétien va comprendre l'amour de Christ. L'amour de Christ n'est pas juste une idée, ce n'est pas juste une vérité. L'amour de Christ est quelque chose qu'on expérience, mais c'est quelque chose qu'on apprend et qu'on vit. Même le chrétien apprend à connaître l'amour de Christ au fur et à mesure qu'il progresse dans sa vie chrétienne. Les enfants qui chantent le chant, « Oui, Jésus m'aime, je le sais, car lui me le dit », comprennent cette vérité, peuvent accepter cette vérité, mais ne la comprendront pas et ne l'accepteront pas de la même manière qu'un chrétien qui est sauvé depuis une quarantaine d'années, qui a vu Dieu agir dans les moments les plus difficiles de sa vie, quand lui-même peut-être a tourné le dos contre Dieu et qu'il a réalisé que Dieu, lui, il n'a jamais tourné son dos à lui. Le plus que je grandis en maturité, le plus que je peux voir l'amour de Christ opérer dans ma vie, là où je ne pouvais pas le voir avant. Il était là, son amour était là, mais je ne le voyais pas. De la même manière qu'un enfant ne réalise pas toujours l'amour que Dieu est en train de lui montrer, la miséricorde qu'il est en train de lui montrer, la grâce qu'il est en train de lui montrer, la compassion qu'il est en train de lui montrer. Dieu est en train de le faire, même si l'enfant ne le réalise, ne le voit pas. Et le fur et à mesure qu'on grandit dans notre maturité chrétienne, le plus qu'on arrive à voir, justement là où l'amour de Christ est en train de se révéler, et on se dit, « Ah, mais il a toujours été là, je ne l'ai jamais vu dans ce domaine-là, je ne l'ai jamais vu comme cela. Je le prenais pour acquis ou je l'ignorais complètement. J'étais ignorant, je n'étais pas ignorant du fait que Dieu m'aimait. Parce que je sais que c'est vrai, la Bible me dit qu'il m'aime. Mais je ne voyais pas de quelle façon et à quel point la hauteur, la largeur, la profondeur de tout l'amour, l'étendue de Christ pour moi. J'aimerais, si vous permettez aussi, qu'on utilise un peu l'exemple d'une montagne ce matin pour nous aider. À un moment, si on veut grimper, nous, une montagne, hein, au moment de notre salut, nous sommes, on va dire, en bas hein, de cette montagne, on regarde vers le haut, on regarde vers le sommet, et on se dit, bah, c'est bon, on se met à marcher, à grimper cette montagne. Et au fur et à mesure qu'on grimpe, le mieux qu'on voit et qu'on comprend l'amour de Christ. Et j'aimerais voir trois choses par rapport justement à cela. Quand on est en bas de cette montagne, quand on est un peu, on va dire, au milieu, et troisième point, une fois qu'on est au sommet de cette montagne. Alors on va commencer donc au pied de cette montagne. Le pied de cette montagne, pour moi, c'est la doctrine de l'amour de Christ. Ce n'est pas pour moi la meilleure façon de connaître l'amour de Christ, mais elle est quand même essentielle pour pouvoir mieux la connaître. La Bible est remplie de vérités sur l'amour de Dieu ainsi que de l'amour sur Christ pour nous. Si nous prenions le temps de simplement lire verset après verset ce matin sur ce sujet seul de combien Dieu nous aime et que Christ nous aime, nous n'aurions pas le temps pour quoi que ce soit d'autre. La prédication serait terminée parce qu'on n'aurait pas le temps. Toujours est-il que si nous voulons bien comprendre toute l'étendue de l'amour de Christ, comme il nous dit dans Éphésiens chapitre 3, sa longueur, sa profondeur, largeur et hauteur, On se doit de lire la parole de Dieu. On est obligé de commencer par cela. On est obligé de, on ne peut pas sauter cette étape. Non la lire comme on lit un texte de loi, mais de lire la parole de Dieu avec l'intention de voir l'amour de Dieu pour nous. De lire la parole de Dieu dans l'intention de voir son amour s'y manifester à travers ses paroles. On serait peut-être surpris de voir le nombre de fois que nous voyons l'amour de Dieu se manifester à travers la personne de Christ. Un chrétien, comme une église, se doit d'avoir de bonnes bases, une bonne doctrine. C'est pourquoi, c'est l'une des raisons pourquoi les prédications du pasteur Dollaire sont si importantes. Il nous apporte une très bonne base, une très bonne fondation, comme on dit souvent. Il apporte les doctrines dont notre Église a besoin et dont nous avons besoin dans notre vie personnelle. Mais comme toute fondation, une fondation seule n'est pas suffisante, n'est-ce pas? Une fondation n'est pas un bâtiment. Mais le bâtiment non plus ne survivra pas si elle n'a pas une bonne fondation non plus. Il faut les deux. Alors ne négligeons pas ce premier pas. Ne négligeons pas le besoin de lire et d'étudier les Écritures pour mieux comprendre et connaître l'amour de Christ. L'amour de Christ n'est pas juste une expérience émotionnelle. Ça commence avec une compréhension aussi intellectuelle de la parole de Dieu qui se laisse toucher notre cœur. Parce qu'en ce faisant, on aura commencé notre ascension pour grimper cette montagne. Dieu nous a donné la Bible, sa parole. Dit Jésus-même, je le sais parce que la Bible me le dit. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas Jésus-même, je le sais parce que je me sens bien. Parce qu'il y aura des jours où je ne me sens pas bien. Mais ça ne change pas le fait que Dieu m'aime quand même. Je sais que Dieu m'aime parce que la Bible me le dit. Et ça ne change pas. Les circonstances autour de moi peuvent changer, ma santé peut changer, ma compréhension peut changer. Mais la Bible ne change pas. Les vérités de la parole de Dieu ne changent pas. Vous avez le droit à vos convictions personnelles, mais quand vos convictions sont en conflit avec les vérités de la parole de Dieu, ce n'est pas à la parole de Dieu de changer, et ce n'est pas à la parole de Dieu qui a tort non plus. Si nous lisons la Bible, pourquoi la lire si c'est pour remettre en question ce qu'on y trouve? Je sais que Dieu m'aime, non parce que je le mérite, non parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'il m'aime, mais parce qu'il... La Bible me le dit, par exemple en 1 Jean chapitre 4, versets 9 et 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que nous, Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà ce que Dieu, l'un des multiples versets que nous trouvons dans la Bible qui nous parle de l'amour de Dieu et de l'amour de Christ pour nous. Ça n'a rien à voir avec moi, ça a tout à voir avec lui. Et ça, ce n'est que la base, ce n'est que la fondation sur laquelle on peut construire. Nous avons besoin de connaître la doctrine de l'amour de Christ. Et le plus qu'on apprend la doctrine, le plus qu'on aura envie de grimper cette montagne, le plus que j'apprends à mieux voir, réaliser et comprendre l'amour de Christ, le plus que j'ai envie de connaître cet amour. La doctrine nous enseigne que Christ a choisi de nous aimer avant même notre naissance. La doctrine nous enseigne que Christ nous aimera pour toujours et sans fin, qu'il n'y a rien que je puisse faire qui l'empêche de m'aimer. La doctrine nous enseigne que l'amour de Christ ne change jamais. Il va toujours nous aimer parfaitement, peu importe ce qu'on fait ou ne fait pas. Son amour, la doctrine nous enseigne, elle est sans limite. La doctrine nous enseigne que rien ni personne ne nous séparera de son amour, comme il nous le dit dans Romains chapitre 8. On verra ce passage plus tard vers la fin. On ne peut pas connaître toute la plénitude de l'amour de Dieu simplement en restant au pied de la montagne non plus. On doit prendre plaisir à ouvrir la parole, on doit prendre plaisir à étudier et se laisser enseigner par les doctrines de la parole de Dieu. Elles sont essentielles. On ne peut pas construire sur une autre fondation que celle-là. Mais on ne va jamais grimper cette montagne, si on reste au pied de la montagne. Alors grimpons un peu plus. Et le plus que nous faisons l'expérience de l'amour de Christ, le plus que nous allons montrer de la reconnaissance. Et mais c'est quoi le lien, ben? Elle devrait être logique pour les chrétiens qui ont déjà connu un peu l'amour de Christ. La connaissance, hein, c'est bien. Jésus-même, je le sais car la Bible me le dit, c'est bien que je puisse savoir, c'est bien que je puisse approuver cette déclaration, mais Dieu a voulu donner la connaissance pour que la connaissance puisse changer notre façon de vivre et notre façon d'agir. Dieu n'a jamais donné la connaissance juste pour enfler notre connaissance, notre intelligence et notre savoir. Dieu n'a jamais donné une connaissance pour enfler notre tête, mais pour faire grandir notre cœur. C'est la différence avec l'homme. L'homme, le plus qu'il sait, le plus qu'il... Regardez-moi. Alors que le plus que nous apprenons de l'amour de Christ, le plus que c'est notre cœur qui doit grandir. Colossiens chapitre 3, versets 14 et suivants nous disent « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, ou c'est vrai de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de qui ? La paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » Ah tiens, là peut-être le lien, de le plus qu'on apprend du fait que Dieu m'aime, le plus que je vais être reconnaissant. Revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection, que la paix de Christ règne dans mon cœur, et le résultat devrait être « soyez reconnaissants ». Il continue, verset 16, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ». On a parlé de ce passage dans le passé, on a dit ce mot « abondamment », ça parle de... maintenant j'ai le mot en anglais, pas en français. « Overflow », déborde. Merci. Il fallait que je le dise en anglais pour que ça sorte ensuite en français. Mais sinon, je sais que j'ai toujours de l'aide. Non. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous d'une manière à ce que ça déborde. Vous savez ce qui se passe quand quelque chose déborde? Peu importe si ce soit un verre, que ce soit un pot, si ça déborde, c'est qu'il n'y a absolument aucune place pour quoi que ce soit d'autre à l'intérieur de ce récipient. Que la parole de Christ déborde de chez vous, en vous. Verset 17, et quoi que vous fassiez, donc que cette connaissance, que cette vérité puisse changer ce que vous faites, comment vous agissez, comment vous vivez, et que quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant, tiens on en revient à, par lui des actions de grâce à Dieu le Père. On en revient encore une fois à la reconnaissance. Pouvez-vous vous rappeler du moment que vous êtes converti pour ceux qui ont fait une profession de foi? Est-ce que vous pouvez vous rappeler du moment précis? Je ne parle pas du jour, de la date, de l'heure, mais du moment que vous avez accepté Christ dans votre vie. Et que pouvez-vous vous rappeler aussi de la joie ressentie, de la paix que vous avez reçue, du soulagement, et j'imagine, aussi de ce sentiment de reconnaissance que vous aviez dans votre cœur parce que vous avez pu vous lever de cette prière et dire « Merci Seigneur, je sais que je suis sauvé. » On ne peut pas recevoir l'amour de Christ et ne pas avoir un cœur reconnaissant. Depuis ce jour de votre salut, vous arrive-t-il de penser à la mort et aux souffrances que Christ a endurées pour que vous puissiez recevoir ce salut? Pas juste à Pâques et pas seulement quand on fait le repas du Seigneur, c'est des bons moments à s'en rappeler, mais ne vous arrête-t-il pas de juste, pendant les semaines, n'importe quelle semaine, de temps en temps, est-ce que le Saint-Esprit vous souffle à votre oreille ou plutôt à votre cœur pour vous aider peut-être parfois, je ne sais pas, ne pas aller vers un certain péché, à avoir une certaine attitude, à ne pas répondre d'une certaine manière, dire « Tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu. Je n'ai pas envoyé mon fils Jésus-Christ pour avoir de telles souffrances pour que tu puisses ensuite, toi, faire comme si de rien n'était et donner libre cours à tes passions, à tes envies personnelles. » Est-ce que vous pensez au... Oui, on aime penser au moment de notre salut et la joie que ça nous a apporté. Mais on doit continuer dans notre ascension, dans notre maturité, quand on grimpe cette montagne, de nous rappeler de « Hey, je ne peux pas faire ça, je me dois d'être reconnaissant pour l'amour de Christ pour moi. » Au moment de votre salut, vous avez compris juste un tout petit peu de l'amour de Christ pour vous. Parce que n'avez-vous pas grandi depuis ce jour, dans votre compréhension même de l'amour de Christ pour vous? Moi, je sais que j'étais qu'un enfant. Je comprenais certaines choses par rapport au sacrifice de Christ sur la croix. Je comprenais que c'était pour moi. Et je comprenais que c'était moi qui méritais de mourir. Je comprenais que je ne pouvais pas mériter le salut par mes œuvres. Mais combien depuis ce jour que j'ai une compréhension encore différente, plus profonde, de l'amour de Christ pour moi. Votre connaissance et votre compréhension de toute l'étendue de l'amour de Christ pour vous n'a-t-elle pas grandi à vous aussi et enrichi depuis le jour de votre salut? Cette croissance de compréhension ne vous a-t-elle pas affecté? Ne vous a-t-elle pas aidé, touché même votre cœur, votre façon de penser, de façon à ce qu'on ne peut pas rester insensible à l'amour de Christ pour moi? Et ensuite, quand on peut chanter un chant si simple, comme « Oui, Jésus m'aime », la doctrine, la vérité, elle est simple, mais elle est également formidable. Mais tout comme pour le salut, la vérité, elle est très simple aussi, n'est-ce pas? Mais n'est-elle pas formidable aussi? Ce n'est pas parce que c'est simple, dans sa compréhension simple, dans son exécution, qu'elle n'est pas profonde et formidable. Cette vérité ne changera rien pour nous personnellement si on n'agit pas en conséquence de cette vérité. De la même manière qu'une personne peut comprendre le salut intellectuellement, mais tant qu'il n'agit pas dessus, ça ne fera rien pour lui. Et c'est pareil pour l'amour de Christ pour nous. Colossiens 3, 17. « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Si vous pouvez passer du temps à réfléchir au fait que Dieu vous aime, que Christ vous aime d'un amour éternel, d'un amour parfait, d'un amour complet, d'un amour sacrificiel, si vous pouvez prendre le temps de réfléchir à ce que cela implique sans que ça ne vous touche, sans que cela ne vous affecte, ce n'est certainement pas là un signe de croissance spirituelle. Au moment de notre salut, nous avons pris conscience de la doctrine de l'amour de Christ, en partie seulement. Nous avons accepté cet amour, ce sacrifice volontaire pour nous. Nous sommes à la base de notre montagne. Maintenant, nous avons continué dans cet amour et on a fait l'expérience jour après jour de l'amour de Christ pour nous. Et nous avons commencé à grimper cette montagne. Et vous savez ce qui se passe quand on commence à grimper une montagne? Ben, la vue, elle change. Au pied d'une montagne, généralement, les regards sont portés vers le sommet de la montagne, sur ce qui nous attend, sur ce qu'on va devoir faire pour grimper. Maintenant que nous avons fait un bout de chemin, on peut regarder de la montagne, mais vers la vallée, là où on a commencé, ou même un peu plus loin. La vue est différente, elle est belle. On a une autre perspective que quand on a commencé au pied de la montagne. L'amour de Dieu et l'amour de Christ fait ça pour nous. Le plus qu'on avance dans notre vie chrétienne, le plus qu'on apprend et fait l'expérience de l'amour de Christ pour nous, le plus que nous voyons la vie différemment. Je ne vois pas la vie pareillement au moment de mon salut que je la vois maintenant. Encore moins d'avant mon salut, bien entendu. Mais je la vois d'une autre perspective que quand je suis fixé sur moi-même, mes besoins, mon amour à moi, mes envies. Je les remplace par l'amour de Christ. Ça change toute ma perspective. L'amour de Christ n'est pas juste une doctrine, une vérité biblique. L'amour de Christ est une expérience qui nous touche, nous change et nous motive à l'obéir par reconnaissance, réalisant qu'on ne mérite pas un tel amour. Mais le but de grimper une montagne, généralement, c'est d'aller le plus haut possible, n'est-ce pas? Voire même d'atteindre le sommet. Alors regardons un dernier point. Le plus que nous faisons l'expérience de l'amour de Christ, le plus que nous allons mettre en pratique ce que lui désire, par-dessus ce que notre chair désire. Nous sommes allés à accepter l'amour de Christ, à faire l'expérience de l'amour de Christ dans notre vie, et maintenant la suite logique que Dieu veut voir dans notre vie, c'est de vouloir imiter l'amour de Christ dans notre vie. Regardez quelques passages en Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 15.
Juste
sinon il ne pourra pas revenir. C'est un passage qu'on connaît bien en Jean chapitre 14, verset 15, n'est-ce pas, où il dit, si vous m'aimez, il ne va pas par trois chemins, il dit, gardez mes commandements. Et toujours dans ce même passage, quelques versets plus loin, versets 21 à 24, il nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariot, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ouais. Autrement dit, le lien est indéniable entre l'amour que nous disons avoir pour Dieu et notre obéissance à sa volonté. De bien vouloir mettre ses commandements, c'est dire être plus importante que notre volonté. Jean chapitre 15, verset 10, nous dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Encore une fois, là, cette fois-ci, il répète encore la même chose, mais en utilisant l'exemple de sa propre vie où Christ dit, « Faites comme moi. Je vous ai aimé jusqu'à mourir pour vous. Je vous demande, aimez-vous les uns les autres. Si vous m'aimez, moi, réellement, si vous êtes réellement reconnaissant pour le salut que je vous ai offert et le prix que ça m'a coûté, montrez votre reconnaissance en étant obéissant. Ne dites pas que vous m'aimez et ensuite faites ce que vous voulez dans votre vie. Les deux ne vont pas ensemble. Après la mort et la résurrection de Christ, quand Christ est de nouveau avec Pierre, rappelez-vous que Pierre avait publiquement renié Christ par trois fois. Christ lui demande à trois fois, m'aimes-tu? Il n'a pas dit, il lui a pas demandé à trois fois, vas-tu m'obéir? Il n'a pas demandé à trois fois, vas-tu être fidèle? Il n'a pas demandé à trois fois, vas-tu faire ce que je te dis? Trois fois, m'aimes-tu? L'amour. Et par trois fois, Pierre lui dit oui. Et à chaque fois, Christ a répondu, alors, paie mes brebis. Il n'a pas dit, si tu m'aimes, chante. Si tu m'aimes, ceci, cela. Il dit, si tu m'aimes, fais. Si tu m'aimes, obéis. Paie mes brebis, aimez-vous les uns les autres. Si tu m'aimes, ce n'est pas juste une émotion, ce n'est pas juste un sentiment, mais ça doit te pousser à agir et à faire et à accomplir ma volonté, même quand elle est difficile. Ton amour pour moi devrait te pousser à faire ce que ta chair n'aura pas envie de faire. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. L'amour de Christ nous presse. On fera des choses pour la personne qu'on aime qu'on ne fera pas pour d'autres. Et on acceptera de la personne qu'on aime des choses qu'on accepterait de personne d'autre. Suzanne peut me dire des choses que je n'aime pas entendre. Que personne d'autre ne pourrait me dire que j'accepterai de la même manière. Mais je l'accepterai de Suzanne parce que je sais qu'elle m'aime. Et je sais que peu importe ce qu'elle est en train de partager avec moi, même si elle est en colère contre moi, je sais que ce qu'elle dit, elle n'est pas en train de dire dans le but de me faire du mal. Parce que je sais qu'elle m'aime. Et si c'est vrai pour quelqu'un comme Suzanne, combien plus est-ce que c'est vrai pour notre Dieu ? Dieu peut me dire ce qu'il veut, même ce que je n'ai pas envie d'entendre, même ce qui m'est difficile d'entendre, je sais qu'il me le dit avec et par amour, et donc j'accepte ce qu'il me dit. Et j'accepte également d'obéir à ce qu'il me demande de faire, par amour pour lui. L'amour de Christ me presse, me pousse à faire ce que personne d'autre ne pourrait me pousser à faire pour eux. Parce que l'amour de Christ est différente. Elle est parfaite, elle est entière, elle est pure. Je n'ai pas à remettre en question ce qu'il me dit, pourquoi il me dit, comment il me le dit. L'amour de Christ me presse, me poussera à faire même ce que ma propre chair n'aura pas envie de faire. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, mais une personne qui grimpe une montagne aura différentes motivations qui l'aident à ne pas abandonner en chemin. Je ne parle pas des escalades où il faut des cordes et tout le matériel pour grimper les façades. Je parle même juste des montagnes qu'on peut atteindre le sommet en suivant un chemin tout tracé. Hein, je me rappelle comment le chemin, pour moi, une fois, la balade pouvait sembler plus pénible et difficile qu'à d'autres moments. La pente était peut-être un peu plus accentuée. Le chemin était un peu plus difficile, il n'était pas très plat, il y avait des trous, il y avait des pierres, il y avait des racines qui sortaient, il y avait des gravillons qui faisaient que ça glissait un peu, le tout ensemble. Et ça fait déjà un moment que tu grimpes, donc parfois le chemin est plus difficile qu'à d'autres. Mais je me rappelle également que c'est dans ce moment-là que je me rappelais qu'une fois arrivé en haut, combien la vue devrait être magnifique. Et donc on se dit, on continue parce que ça en vaut le coup. Ça vaut l'effort, on n'abandonne pas. Je veux voir du haut de cette montagne cette vue que je ne pourrais pas avoir autrement. Et ça va être pareil dans notre expérience de l'amour de Christ pour nous et de l'amour que nous allons vouloir lui montrer en retour. Oui, parfois ce sera difficile. Oui, parfois le chemin va sembler s'écrouler un peu sous nos pieds et on aura une difficulté à avancer et on va se remettre en question, est-ce que ça vaut la peine? Mais si on se rappelle des promesses de Dieu, si on se rappelle, on sait qu'on ne sera jamais déçu de l'avoir obéi. Là, on pourra arriver en haut et regarder en arrière sans honte, sans avoir des raisons d'être déçu, sans regret. Par contre, si on se dit qu'on n'en peut plus, c'est trop difficile, ça demande trop d'efforts. Si même l'amour de Christ n'est pas assez pour nous presser, à peut-être pardonner, nous presser à vouloir réconcilier, nous presser à faire preuve de grâce, nous presser à faire preuve de miséricorde, comme Dieu l'a déjà fait envers nous, jour après jour. Alors ne soyez pas étonnés d'avoir des regrets. Surtout quand vous entendez d'autres chrétiens parler de leur vie chrétienne, des victoires dans leur vie, des expériences de l'amour de Christ dans leur vie. Je comprends intellectuellement ce qu'ils disent, mais je ne comprends pas non plus en même temps parce que j'ai pas vécu ça. Parce que vous n'avez pas voulu aller, continuer à aller jusqu'au sommet pour comprendre, comme on voit dans le passage d'Éphésiens, de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, sa hauteur, sa largeur, sa longueur, sa profondeur. Ils auront une vie sur la vie que vous n'avez pas encore parce que vous n'avez pas voulu faire cet effort. Le prix pour arriver là-haut peut être trop grand. Mais si j'aime Dieu, si j'aime Christ, si je peux dire, je sais que Jésus m'aime, je le sais car la Bible me le dit, et moi en retour, donc ça me pousse à l'aimer aussi, et si ça me pousse à l'aimer comme on l'a vu, ben, ça me pousse à l'obéir. Pas seulement quand c'est facile, mais justement quand ça devient un peu difficile et pénible. Seigneur, ton amour me presse, je continue, je n'abandonne pas. Je veux arriver jusqu'au bout. Il n'y a absolument rien qu'il puisse me demander de faire que je n'accepte pas de faire sans son aide. D'aimer Christ. Et ne jamais faire, ne jamais obéir, ça ne me sert absolument à rien. C'est comme la personne qui dit apprendre à nager et qui ne se met jamais à l'eau. Et je pourrais continuer toute la matinée à faire des comparaisons similaires. Ça ne sert à rien de tout connaître sur l'agriculture si je ne plante jamais rien, de tout connaître sur la maçonnerie sans jamais rien construire, de tout connaître sur l'amour de Christ et ne jamais mettre en pratique sa volonté. Éphésiens 3, 18, 19, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Est-ce que vous avez cette connaissance-là de l'amour de Christ pour vous? Parce qu'elle vous est accessible. C'est Christ qui la rend disponible. On ne pourra jamais tout connaître de l'amour de Christ, mais le peu qu'on peut en apprendre devrait nous pousser à vouloir l'aimer plus. En retour et être reconnaissant pour cet amour qu'on ne mérite pas, et donc de vouloir prouver notre amour en obéissant à sa volonté, quelle qu'elle soit. Pour conclure, quand je grimpe une montagne, comme toute personne, on est obligé de commencer à la base, n'est-ce pas? Je regarde vers le sommet, je souris, je suis impatient de pouvoir faire l'expérience de grimper, de voir les belles choses en chemin. Et une fois que j'ai grimpé un peu, ben, Oui, la fatigue pourra commencer à se faire sentir, mais je regarde encore vers le haut et je vois la distance, elle commence à diminuer aussi. Je regarde également autour de moi et je peux voir maintenant la vallée, un village au loin, un ruisseau qui coule, je ne sais pas, une rivière plutôt, un ruisseau, je ne le verrai pas là-haut. Mais le tout me fait sourire. Il me dit, j'ai déjà arrivé à un certain chemin, ce n'était pas pour rien, déjà ça c'est beau. Je vais être encore plus beau là-haut. Et le tout me fait sourire, me redonne force et volonté de continuer. Une fois arrivé en haut, je ne connais pas le seul chrétien qui pourra me dire, ben, j'ai regretté d'avoir fait ce chemin. J'ai regretté d'avoir mis l'effort nécessaire pour mieux connaître et comprendre l'amour de Christ pour moi. Parfois, la montée était plus difficile que d'autres, mais jamais déçu de ne pas avoir abandonné. Parce que là-haut, la vue est exceptionnelle. On voit cette même vallée d'où on a commencé différemment de là-haut. On voit la vie différemment. On peut regarder en arrière dans notre passé et voir d'une manière différente ce que Dieu a permis et comment Dieu était avec nous chaque pas, alors que même qu'on ne le voyait pas à l'époque. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie chrétienne, mais je vous en conjure, n'abandonnez pas. Continuez votre chemin et voyez l'amour de Christ pour vous. Que son amour vous aide, vous fortifie, vous encourage, vous donne une autre perspective sur votre vie. Pour dire, Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit, rien que cela devrait me suffire. Ça me suffit pour être heureux, ça me suffit pour être reconnaissant, ça me suffit pour vouloir obéir. Que me faut-il de plus que l'amour de Christ? Parce que si je n'avais pas l'amour de Christ, tout le reste serait insignifiant. Parce que tous mes efforts seraient à vouloir gagner l'amour de Christ. Imaginez un peu si c'était ce que Dieu avait mis en place. C'est à vous de gagner mon amour, de la mériter. Mais nous n'avons pas à la gagner, il nous l'offre. Il a choisi de nous aimer. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, donc pas une fois que nous avons fait les bons choix, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 8, verset 31 et suivant. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Heureusement qu'on n'a pas à gagner son amour. Il nous l'offre. Je vous aime. Il est pour nous. Qui pourrait être contre nous? Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, vous savez, toutes ces craintes des choses futures auxquelles qui nous font peur, alors généralement, ils n'arrivent jamais. Verset 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra, quoi? Nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit, et ça me suffit pour me rendre heureux. Je vous encourage à garder ce feuille de chant et de relire les strophes pour vous, et vous dire, c'est vrai, je devrais être encouragé, juste à comprendre cette simple vérité et combien ça devrait changer la façon que je vois et que je regarde la vie que Dieu m'a donnée. Prions, s'il vous plaît.